Avec Léa Salamé, notre invité ce matin, est écrivain, romancier. Il est né en Inde, a grandi adolescent et étudié en Grande-Bretagne. Il vit aujourd'hui à New York et publie chez Actes Sud La Maison Golden. Salman Rushdie, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à France Inter, traduction simultanée de vos propos par Michel Zlotowski. Alors il semble, Salman Rushdie, que vous l'ayez écrit rapidement ce livre, rapidement après le précédent, sans vous laisser le temps habituel auquel vous tenez entre deux livres. Alors dites-nous, quelle était l'urgence pour vous à narrer les aventures de l'inénarrable Néron Golden, prénom bizarre, court sur pattes, roi sans couronne, dandy vieillissant, riche, infatué et fier de son service au ping-pong.
You know, it was a surprise to me how quickly the book came.
Mais c'était une surprise pour moi, la vitesse à laquelle ce livre est arrivé. D'ordinaire, il y a un intervalle beaucoup plus long. Mais il semblait bien qu'il y ait une sorte d'urgence. En partie, l'histoire de Néron m'habitait depuis longtemps, plus de 8 ans en fait. Et puis j'ai eu l'idée d'écrire un roman extrêmement contemporain au sujet de New York, principalement au sujet de l'Amérique en général, tenter de capturer un moment. Et au moment où j'ai eu cette idée, j'ai commencé à l'écrire. Et c'est venu très très rapidement. Enfin bon, rapidement pour moi.
Hein. Pas pour votre éditeur.
C'est un roman réaliste, ce ne sont pas les scènes de la vie parisienne de Balzac, mais les scènes de la vie new-yorkaise de Rushdie. Pourquoi est-ce que vous aviez envie, besoin, l'urgence d'écrire sur ces dernières années, ces 10-15 dernières années de New York ?
You know, it's just such an interesting time.
Vous savez, c'est une époque tellement intéressante.
Et
c'est un temps très étrange et beaucoup plus étrange que tout ce à quoi on peut rêver ou imaginer. J'avais cette idée de Charles Dickens où il aimait bien faire ces romans panoramiques de moments de l'Angleterre et d'avoir ces personnages extrêmement immenses qui se projetaient sur cette scène extraordinaire. Et c'est comme ça que le livre fonctionne. Les personnages comme Néron Goldman et ses enfants sont magnifiés, mais le monde dans lequel il vit est aussi réaliste que je peux le faire.
Mais pourquoi cette famille, elle aime-t-elle les prénoms antiques, Salman Rushdie, qui peuvent être à la mode chez les bobos? Ça, on le sait, c'est connu et repéré. Mais là, ils sont quand même gratinés, ces prénoms. Néron, Petronius, Lucius, Apuleius, Dionysos, et je ne parle pas de Little Vespa.
You know, they grew up in India with a kind of
grandi en Inde avec une éducation classique européenne. Ils ont appris le latin et le grec. Et donc, quand leur père leur demande de choisir de nouveaux noms, de nouveaux prénoms, parce qu'ils vont changer leur vie, ils ont tous choisi des noms qui venaient de l'antiquité classique. Et mon idée, c'était que, d'une certaine manière, les noms qu'ils ont choisis allaient prédire leur futur, comme, leur destin.
Comme dans la tragédie.
Yes, exactly like that.
Exactement.
I was thinking a lot about Greek tragedy.
J'ai beaucoup pensé à la tragédie grecque.
Because one of the things about Greek tragedy is a kind of inevitability.
Parce que une des choses dans la tragédie grecque, c'est l'aspect inévitable.
The man cannot escape his fate.
L'homme ne peut échapper à son destin.
And we all know this from the beginning.
Et nous le savons tous dès le départ, mais eux ne le savent pas.
Ce livre, vous parlez beaucoup de l'identité. Vous dites l'identité, c'est le grand mot M-O-T ou M-A-U-X, ça c'est selon, le grand mot de l'époque. Vous imaginez un musée de l'identité. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans dans ce musée de l'identité ?
I'm very proud of the museum of
Je
identity.
Suis très fier du musée de l'identité.
Oui, on a senti.
Parce que
je pense qu'il va exister très très prochainement.
But it's just a place, an imaginary place.
C'est un endroit imaginaire où l'on peut parler de la façon où dans de nombreuses cultures, même à des époques très anciennes, des sujets comme le genre, le sexe, ont été extrêmement compliqués. Il y a beaucoup de sculptures indiennes anciennes qui sont hermaphrodites.
Il y a
certaines tribus amérindiennes qui ont toujours accepté l'idée de plus de 2 genres, 4 ou 5 genres. Donc j'essaie d'assembler tout cela dans un seul musée, un musée imaginaire.
Comment avez-vous vécu le fait de commencer l'écriture de ce livre pendant les années Obama et de le terminer avec l'élection de Donald Trump? Vous êtes dit, bon, ça y est, la fiction dépasse la réalité. L'inverse, plutôt.
You know, that actually was quite a late addition to the book.
En fait, vous savez, c'est une addition tardive au livre, parce qu'originellement, je voulais écrire sur cette période en général. J'avais aucun sens de date précise. Mais lorsque le phénomène Trump a débuté, je me suis dit qu'il y avait un arc qui nous menait d'un moment de grand optimisme à un moment de grande folie.
Vous parlez de grand optimisme sur la période Obama, vous parlez aussi de la grande déception Obama.
Yeah, I mean, I'm not just disappointed in
Obama. Je ne suis pas aussi déçu d'Obama que beaucoup de personnes.
I think he looks better every day.
Je pense qu'il a l'air beaucoup mieux tous les jours.
Please come back.
Et on peut lui dire, s'il vous plaît, revenez, Monsieur Obama.
Par contre, Donald Trump ne vous déçoit pas. Il est chaque jour un peu plus. Pourquoi vous appelez Trump le Joker, comme dans Batman? Le Joker, c'est un héros maléfique, mais c'est un héros quand même. Vous en faites un héros, Donald Trump.
Well, I didn't want his name in my book.
Je ne voulais absolument pas son nom dans mon livre. C'est pour commencer. Hein.
And as one of the characters
Et
says,
comme un des personnages le dit, ce n'est pas une époque de héros, mais c'est une époque de méchants.
And it seems to me now that he looks more like
semble,
this, he looks more like my character.
Il ressemble beaucoup plus comme il ressemble beaucoup plus à mon personnage chaque jour.
Ça n'est qu'un méchant, Donald Trump.
La
plupart des êtres humains, on peut y voir, on peut voir en eux une complexité, une partie à laquelle on peut réagir, une partie à laquelle on n'aime pas, mais lui, il est uniformément horrible.
Comment un écrivain, un être donc dont le métier est d'imaginer, Salman Rushdie, vit dans le monde des fake news. Un monde où, pour citer l'ancien maire de New York et très proche de Donald Trump, Rudy Giuliani, un monde où la vérité n'est pas la vérité. C'est une citation exacte de Rudy Giuliani en interview. La vérité n'est donc plus vraie, c'est une opinion comme une autre. Comment vous, l'écrivain, vivez-vous là-dedans?
Well, it's true that it's a time of a
Il est vrai que c'est une époque d'attaque sur l'idée même de vérité par des gens comme Giuliani.
But I think, you know, literature has
Je crois que la littérature a un rôle à jouer ici.
When you read a book
Quand
that
on lit
that you
un
like,
livre que vous aimez,
you think, yes, this is
vous pensez,
how it is.
Oui, c'est comme ça que c'est, que ça se passe. C'est comme ça que les gens se comportent les uns envers les autres, et ça c'est le monde. Donc de façon paradoxale, la fiction peut être une façon de rétablir les liens avec leur idée de la vérité.
Vous y croyez vraiment?
I hope so. I mean, you know, I don't want to claim too much.
Je veux pas en demander trop, mais
it's a step on the way,
oui, c'est un pas vers la bonne direction.
Le jeune Indien que vous étiez, qui a été, on le rappelle, doublement exilé, puisque vous avez d'abord été exilé à Londres pendant longtemps et depuis une vingtaine d'années, vous habitez à New York. Est-ce qu'il aurait pu imaginer voir un jour New York ainsi, les États-Unis ainsi, l'Occident ainsi? Est-ce qu'il aurait pu imaginer, il y a 60 ans, la décadence de l'Occident?
You know, I mean, it's a bad time. I don't want to talk
c'est
about the fall
une mauvaise
of the West,
époque. Je voudrais pas parler de la chute de l'Occident.
I mean, things are not as bad as that.
Les choses ne sont pas aussi terribles que ça.
I don't subscribe to the idea that somehow
Je ne souscris pas à l'idée que l'Amérique se désintègre.
I mean, I think it's a dark time.
Je crois que c'est une époque sombre, bien sûr, c'est sans le moindre d'un doute. Mais il y a une résistance, il y a beaucoup de gens qui débattent et qui s'opposent à l'administration américaine. Je ne crois pas au désespoir. Pour un artiste, je pense qu'il est très important de ne pas être trop obsédé par les petits détails mesquins de la politique, mais de continuer à travailler à son travail. C'est la meilleure des choses que l'on puisse faire.
La résistance dont vous parlez se trouve notamment à New York, aux États-Unis. Vous écrivez « L'élite intellectuelle radicale chic peut détester Trump, haïr le mensonge, l'hypocrisie, la vulgarité, le sectarisme, la grossièreté, la violence, la paranoïa de cet homme. Mais il n'empêche qu'il est là, qu'il reste quand même populaire auprès d'une partie de sa population. C'est un fait qu'il faut acter, que les résultats économiques sont plutôt bons.
La vérité, c'est qu'un tiers de l'Amérique est folle. Mais le reste n'est pas tellement fou. Et on va voir sa popularité. Sa popularité plonge tous les jours.
Comment ça se passe un dîner à New York entre l'élite démocrate? Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous déprimez? Est-ce que vous rigolez? Comment ça se passe un dîner new-yorkais sous Trump?
Oh, you know, New York is a place which voted very powerfully against him.
est une ville qui a voté majoritairement contre Trump. Donc on rencontre peu de soutien de Trump à New York. Et on le laisse vraiment en dehors. Mais comme je l'ai dit,
he wasn't really important in this book,
you know. Il n'était pas très important dans mon livre. Je vois ce livre comme étant l'histoire de cette famille, cette famille qui avait le pouvoir et qui s'écroule. Et c'est simplement aux marges de leur histoire qu'il y a ce petit gobelin, ce petit démon, ce personnage-là. Mais il est vraiment à la marge de l'histoire, il n'est pas au centre.
En revanche, Salman Rushdie, ce qui est au centre de l'histoire, l'événement majeur, ce sont les attentats de Bombay en 2008. Près de 200 morts dans une série d'attaques qui a duré plusieurs jours. Depuis, le terrorisme... Déjà, pour commencer, pourquoi avoir fait de cet événement là, ce qui fait pivoter toute l'histoire.
Well, in many ways, it's where the book began.
En fait, de beaucoup de façons, c'est là que le livre commence, parce que j'ai regardé ce qui s'était passé à Bombay et j'ai découvert cette relation étrange entre les djihadistes qui venaient du Pakistan et la mafia criminelle locale de Bombay, qui les avait aidés. Mais si vous connaissez la ville, vous savez que la mafia aime beaucoup la haute société, la grande société. Ils aiment bien sortir avec des vedettes de cinéma. Et je voulais dépeindre un homme de pouvoir de la bonne société qui était attiré, attrapé, rattrapé par le monde de la mafia et qui devient, en fait, qui en a peur, qui tente d'y échapper. Et d'une façon, c'était le début de mon livre.
Alors donc, depuis Bombay, depuis 2008, le terrorisme a continué à frapper partout. Qu'est-ce qui pourrait le faire disparaître? Excusez la naïveté de la question.
Vous demandez ça à la bonne personne parce que moi, dans ma poche, j'ai toutes les bonnes solutions.
On attend des écrivains des réponses que personne d'autre nous donne.
Je crois qu'il faut maintenir le cap, continuer d'être qui vous êtes, continuer à se battre contre cela. Il n'y a pas de réponse simple ou facile. D'une certaine manière, ces phénomènes, vous savez, s'épuisent. Al-Qaïda n'est plus ce que c'était. Il y a une arche dans l'histoire de ces événements. Et finalement, j'espère que ça va s'arrêter, mais je n'ai pas de solution magique.
Il paraît que vous lisez et que vous ne lisez que de la poésie quand vous écrivez un roman, c'est vrai ?
En grande partie, oui. Je lis les matériaux dont j'ai besoin pour mon livre, mais j'aime lire un peu de poésie chaque jour. Au hasard, je prends un livre sur l'étagère parce que ça vous rappelle, en tant qu'écrivain de prose, qu'il faut faire attention au langage, parce que la poésie fait très très attention au langage.
Je vous propose d'écouter, Salman Rushdie et amis auditeurs, d'écouter une lettre que vous a envoyée Isabelle Adjani, une lettre qui a été diffusée hier soir dans l'émission La Grande Librairie, 30 ans après les versets sataniques. Voilà ce qu'elle vous écrit, c'est un extrait.
Cher Salman Rushdie, vous ne vous êtes jamais résigné au silence. Depuis quelques décennies, dans les couloirs d'une mort annoncée, proférée, vociférée, vous continuez à écrire, malgré la fatwa, malgré les menaces. Vous avez vécu en liberté surveillée, en liberté protégée, mais vous êtes toujours libre. Libre pour continuer à dire aux femmes et aux hommes que libres, ils le sont aussi. Que libres, ils doivent le rester.
Vous savez, il y a 30 ans, Isabelle Adjani a fait véritablement un geste de soutien lorsqu'elle a lu un extrait de mon livre, lorsqu'elle a reçu le César. C'était important pour moi à l'époque et j'ai beaucoup apprécié alors.
Et
pour elle, c'est un souvenir important puisqu'elle y est revenue 30 ans après. Je n'ai rencontré Isabelle Adjani qu'une seule fois. Et c'est il y a un an et demi. Donc j'ai eu l'occasion de la remercier personnellement. Et j'ai beaucoup apprécié qu'elle l'ait refait. Mais pour vous dire la vérité, toute cette histoire des versets sataniques, ça me semble être il y a très 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 longtemps. C'est il y a longtemps, c'était il y a 30 ans. Et dit simplement, c'était le quatrième roman que j'ai publié. le cinquième livre. Et La Maison Golden, c'est le 13e roman et le 18e livre. Donc, c'est de l'histoire ancienne pour moi.
Vous en avez assez qu'on vous pose des questions sur ce livre-là ?
Un petit peu, oui. Parce qu'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mes mémoires, Joseph Anton, c'était en fait pour répondre à toutes ces questions. Il y a 650 pages, hein. Donc, si vous voulez vraiment tout savoir, ben, lisez ce livre.
Allez, une dernière question sur le sujet. Promis, on ne vous en posera plus jamais aucune. Vous dites, pour vous, c'est de l'histoire ancienne. Pour nous, en France, c'est une histoire beaucoup plus récente. Les survivants de l'attentat de Charlie Hebdo vivent dans ces conditions. Ils sont entourés d'une armée de policiers, empêchés de sortir, juste faire un tour dans la rue, boire un café à une terrasse ou aller tranquillement au cinéma. Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire ?
Moi, j'ai soutenu Charlie Hebdo depuis le début. Et je crois qu'ils savent à quel point je suis de leur côté. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, ça a pris plus de 10 ans. Mais finalement, ça a eu une fin. Et donc, il y a toujours un moment où le monde poursuit sa course et j'espère que ça va leur arriver aussi rapidement.
Très tôt dans La Maison Golden, dans votre nouveau roman, vous posez deux questions. Qu'est-ce qu'une bonne vie et quel en est le contraire ? Est-ce que vous avez la réponse, les réponses ?
Le personnage de Néron, d'une certaine manière, c'est un point d'interrogation sur ce sujet. Parce que Néron est à la fois quelqu'un de bon et quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui a fait des choses très très mauvaise dans sa vie. Mais il y a d'autres aspects de lui pour lesquels on peut avoir de la sympathie, de la compassion. Il aimait sa femme et elle, c'est une des personnes qui a été assassinée lors de l'attaque du Taj Mahal. Tous ses enfants, ses fils ont des problèmes graves. Mais c'est un père très compréhensif. Il les soutient. Donc, je voulais essayer de créer ce personnage double qui, d'un côté, a été impliqué dans des choses horribles, qui a fait des choses vraiment terribles. Mais, toutefois, sans le sentimentaliser, je voulais que le lecteur sente de la compassion, qu'il le comprenne. Donc, il est les deux. Il a une bonne vie et une mauvaise vie.
Mais vous avez la réponse, vous, Salman Rushdie, à qu'est-ce qu'une bonne vie ?
Une bonne vie, c'est une vie au cours de laquelle vous faites ce que vous voulez faire, où vous aimez et où vous êtes aimé. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça.
C'est vrai, ça semble simple.
Oui, c'est beau et difficile. On va passer au Standard d'Inter où nous attend Zachary de Rennes. Bonjour et bienvenue Zachary.
Bonjour, merci. Bonjour Salman Rushdie. On a un débat en ce moment en France, une polémique, on ne sait pas trop, à propos de l'enseignement de l'arabe à l'école. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez que l'éducation nationale ou le système scolaire, plus largement, est une réponse à apporter au fondamentalisme ou à la radicalisation ?
Merci Zachary pour cette question. Michel Zlotowski l'a traduit à l'oreille de Salman Rushdie qui vous répond.
Je ne parle pas un seul mot d'arabe. Et ça m'allait bien. Mais bien sûr, l'éducation a un rôle important à jouer. Parce que si vous vivez aux États-Unis, par exemple, vous êtes très conscient de la façon dont peu de gens savent ce qu'est le monde au-delà des frontières des États-Unis. Et quand beaucoup de préjudices, de préjugés proviennent de ce manque de savoir. Donc moi, je crois beaucoup en l'éducation. C'est une des grandes réponses à tous ces problèmes.
Est-ce que vous avez toujours un regard sur la vieille Europe, sur votre Angleterre qui post-Brexit, sur la France aujourd'hui ? Est-ce que vous regardez tout ça ou ça vous intéresse plus ?
I keep an eye open.
Non, je garde l'œil ouvert.
Et
je crois que la situation de l'Angleterre est vraiment problématique en ce moment. Ce n'est pas un secret que moi je ne soutenais pas le Brexit. Et je crois que c'est une sorte de désastre pour le pays.
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le pays, d'après vous ? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment ?
Une
sorte de folie.
C'est-à-dire, a vote of punishment. You know,
en fait, c'est un vote de punition, de protestation contre le gouvernement qui n'était pas populaire. Et en partie, c'était un fantasme de pouvoir revenir à une sorte d'âge d'or de l'Angleterre qui n'a jamais existé et qui ne voulait absolument pas ou qui n'acceptait pas les gens de l'étranger qui les ennuyaient. Et en fait, le pays ne peut pas fonctionner sans les immigrants. Et on ne peut pas faire de récolte, on ne peut pas avoir suffisamment de personnes dans les hôpitaux sans les immigrants.
Mais vous qui êtes l'écrivain du cosmopolitisme, vous qui avez chanté le mélange, l'accueil, quand vous voyez que toutes ces idées de retour des frontières, de rejet des migrants se développent partout en France, mais partout en Europe et aux États-Unis, est-ce que vous avez conscience que vous avez perdu la bataille culturelle ?
Perdu, le mot est un petit peu trop lourd parce que la bataille ne s'arrête jamais. Vous savez, ça va d'un côté et de l'autre. Mais je crois que l'immigration, en général, a été quelque chose qui était enrichissant pour les cultures vers lesquelles les immigrants sont venus. Et si vous regardez dans n'importe quelle ville, New York, Londres, Paris, vous voyez la complexité, la richesse créée par ce nouveau monde qui est le nôtre et où les gens bougent. J'étais en France le jour de la finale de la Coupe
laquelle,
du Monde.
Laquelle, puisque maintenant on en a plusieurs.
Celle-ci, la dernière.
La deuxième.
Et j'étais en vacances avec ma famille dans le midi. Et je me suis dit, voilà cette équipe française. Et ça prouve ce que je dis. L'équipe de France est la preuve de ce que je dis. Parce que si c'était une équipe de blancs, ben vous ne seriez pas champion du monde.
On en reste... Vous étiez pour la France ?
À l'origine, une fois que l'équipe d'Angleterre a été éliminée, disons.
Ça a été rapide d'ailleurs, non?
Écoutez, c'était la demi-finale.
Et puis restons sur une note d'amitié. Merci beaucoup Salman Rushdie d'être venu aujourd'hui en studio. La Maison Golden, traduit de l'anglais par Gérard Medal, est publiée chez Actes Sud. Profitez bien de Paris. Pour l'instant, c'est les studios radio et les studios télé, mais vous allez sortir quand même un peu?
Un petit peu, oui.
C'est toujours délicieux d'être à Paris.
Et merci à Michel Zlotowski.